Née 1260 et 1290. On raconte que c'est une Égyptienne qui a été amenée en France alors qu'elle n'était encore qu'un tout jeune enfant, par un chevalier chassé de Jérusalem par les Sarrasins. Aujourd'hui, elle aurait donc 70 ans.
Mais dites-moi qu'elle est en vie.
Oui, prince, mais...
Que Dieu la bénisse.
Mais elle a quitté Paris.
Et comment vais-je pouvoir la trouver ? S'inquiéta de Valois.
Elle habite maintenant Étampes, où elle sévit comme mère des prostituées de la ville. Et elle s'appelle Isia. Nous la trouverons.
Chapitre 107.
Après avoir descendu à cheval tout le matin les monts des Pyrénées, guettant sans cesse derrière eux si l'on ne les poursuivait pas, Andreas, Robin et Alice arrivèrent aux portes de Pampelune sous les rayons verticaux d'un soleil radieux, lequel leur offrit l'une des plus belles images de cette ville qui, quoique déchirée en ce temps par des luttes intestines, était d'une royale splendeur. Bien que le jeune Louis, roi de Navarre et fils de Philippe le Bel, y eût été couronné 6 ans plus tôt, il n'avait plus jamais remis les pieds à Pampelune depuis lors, préférant rester auprès de son père à Paris, et laissant donc à Alphonse de Rouvroy, gouverneur de Navarre, la difficile tâche de gérer les affaires de cette houleuse capitale. Le royaume de Navarre était, de ce côté-ci, un pays très capricieux, et beau, et curieux, et admirablement plein de contrastes. Et l'impétueuse Pampelune était-elle une forteresse isolée, dominant tout, juchée sur l'un des derniers contreforts des Pyrénées d'où l'œil pouvait surveiller d'un seul coup l'étendue entière de cette grande et aride vallée. Au pied de son enceinte coulait l'Arga, qui nourrissait quelques rares peupliers et chênes-lièges, car séant le soleil dessèche la terre rousse, et le fleuve lui-même, sous l'influence de l'astre brûlant comme de la poussière, paraît aussi rouge qu'un filet de sang. En arrivant devant la ville, y laissant leurs chevaux, l'apothicaire et ses deux jeunes compagnons de route ne virent d'abord que les multiples clochers qui dentelaient sa silhouette. Car la cité navarraise, qui fut, dit-on, la première ville chrétienne de la péninsule ibérique, comptait déjà en cette époque un grand nombre d'églises, telles San Nicolas ou San Saturnino, dont nous reparlerons tout à l'heure. Mais une fois passée la première muraille, ils découvrirent alors une cité éblouissante, tout en couleurs et en opposition. Figurez-vous une ville ayant 3 populations de cultures différentes, favorable tantôt au royaume de Castille, tantôt à celui de France, se livrant toutes 3 à des combats acharnés et fratricides, et se réfugiant dans autant de quartiers distincts. En l'occurrence, ce fut vers celui de San Saturnino, et plus précisément vers la Rua de las Bolserias, qui était alors l'une des plus grandes artères de Pampelune, que nos héros se dirigèrent, guidés par les habitants auxquels ils avaient demandé où l'on pouvait trouver un homme allant du nom de Juan Hernandez Manao. Réduit au mutisme par l'admiration et peut-être aussi en ce qui concernait Andreas par le manque de diacode qui se faisait de plus en plus douloureux, ils foulèrent les rues bariolées de tentures et de fresques, longèrent les hautes et massives maisons de granit, maisons peintes aux lignes fières et sévères, le bas de leurs murailles coloriées et leurs portes en chêne constellées de clous de bronze. Traversèrent les places arcades, au sol pavé de mosaïques, et où l'on imaginait aisément la furie poussiéreuse des courses de taureaux, au milieu de foules en liesse, noyées dans les cris et perdues sous une douche de particules dorées. Les femmes, penchées à leurs fenêtres, se parlaient d'un balcon à l'autre très fort, et dans les rues les hommes qui portaient des chapeaux pointus ou des bonnets de peau de mouton se haranguaient de telle sorte qu'on ne savait pas vraiment s'ils discutaient ou s'ils se disputaient. Et tout cela faisait une rumeur joyeuse qui se mariait à merveille à tout ce pittoresque assortiment. Partout, dans les noms des rues, des églises, des boutiques, on retrouvait ceux de Saint-Saturnin et de Saint-Firmin, qui furent respectivement premier apôtre et premier évêque de Pampelune. Et c'était donc vers l'église San Saturnino que nos héros se rendaient, à l'instar des pèlerins de Compostelle qui, comme on approchait de la dite sainte ville, étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus fatigués et de plus en plus dévots. Au milieu des rues étroites s'élevait cette imposante forteresse religieuse, telle un empereur dominant la plèbe, flanquée de tours menaçantes et droites.